Panorama dramatique. Première représentation de l'alcade dans l'embarras. Un broglio en trois actes. Début de Mademoiselle Florine, Mademoiselle Coralie, bouffée. On entre, on sort, on parle, on se promène, on cherche quelque chose et l'on ne trouve rien. Tout est en rumeur. L'alcade a perdu sa fille et retrouve son bonnet. Mais le bonnet ne lui va pas. Ce doit être le bonnet d'un voleur. Où est le voleur? On entre, on sort, on parle, on se promène, on cherche de plus belle. L'alcade finit par trouver un homme sans sa fille et sa fille sans un homme. Ce qui est satisfaisant pour le magistrat et non pour le public. Le calme renaît. L'alcade veut interroger l'homme. Ce vieil alcade s'assied dans un grand fauteuil d'alcade en arrangeant ses manches d'alcade. L'Espagne est le seul pays où il y ait des alcades attachées à de grandes manches, où se voient autour du cou des alcades des fraises qui, sur les théâtres de Paris, sont la moitié de leur place et de leur gravité. Cet alcade, qui a tant trottiné d'un petit pas de vieillard poussif, est Bouffé. Bouffé est le successeur de Potier. Un jeune acteur qui fait si bien les vieillards qu'il a fait rire les plus vieux vieillards. Il y a un avenir de 100 vieillards dans ce front chauve, dans cette voix chevrotante, dans ces fuseaux tremblants sous un corps de géronte. Il est si vieux, ce jeune acteur, qu'il effraie. On a peur que sa vieillesse ne se communique comme une maladie contagieuse. Et quel admirable alcade! Quel charmant sourire inquiet! Quelle bêtise importante! Quelle dignité stupide! Quelle hésitation judiciaire! Comme cet homme sait bien que tout peut devenir alternativement faux et vrai. Comme il est digne d'être le ministre d'un roi constitutionnel. À chacune des demandes de l'alcade, l'inconnu l'interroge. Bouffé répond, en sorte que, questionné par la réponse, l'alcade éclaircit tout par ses demandes. Cette scène éminemment comique, où respire un parfum de Molière, a mis la salle en joie. Tout le monde est d'accord, mais je suis hors d'état de vous dire ce qui est clair et ce qui est obscur. La fille de l'alcade était là, représentée par une véritable Andalouse, une Espagnole aux yeux espagnols, au teint espagnol, à la taille espagnole, à la démarche espagnole. Une Espagnole de pied en cap, avec son poignard dans sa jarretière, son amour au cœur, sa croix au bout d'un ruban sur la gorge. À la fin de l'acte, quelqu'un m'a demandé comment allait la pièce. Je lui ai dit « Elle a des bas rouges à coins verts, un pied grand comme ça, dans des souliers vernis et la plus belle jambe de l'Andalousie. » Ah, cette fille d'alcade, elle fait venir l'amour à la bouche. Elle vous donne des désirs horribles. On a envie de sauter dessus la scène et de lui offrir sa chaumière et son cœur, ou 30 000 livres de rente et sa plume. Cette Andalouse est la plus belle actrice de Paris. Coralie, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est capable d'être comtesse ou grisette. On ne sait sous quelle forme elle plairait davantage. Elle sera ce qu'elle voudra être. Elle est née pour tout faire. N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux à dire d'une actrice au boulevard ? Au second acte est arrivée une Espagnole de Paris, avec sa figure de camée et ses yeux assassins. J'ai demandé à mon tour d'où elle venait. On m'a répondu qu'elle sortait de la coulisse et se nommait Mademoiselle Florine. Mais ma foi, je n'en ai rien pu croire, tant elle avait de feu dans les mouvements, de fureur dans son amour. Cette rivale de la fille de l'alcade est la femme d'un seigneur taillé dans le manteau d'Almaviva, où il y a de l'étoffe pour 100 grands seigneurs du boulevard. Si Florine n'avait ni bas rouge à coins verts, ni souliers vernis, elle avait une mantille, un voile dont elle se servait admirablement, la grande dame qu'elle est. Elle a fait voir à merveille que la tigresse peut devenir chatte. J'ai compris qu'il y avait là quelques drames de jalousie, aux mots piquants que ces deux Espagnols se sont dit. Puis, quand tout allait s'arranger, la bêtise de l'alcade a tout rebrouillé. Tout ce monde de flambeaux, de torches, de valets, de figaro, de seigneurs, d'alcades, de filles et de femmes s'est remis à chercher, aller, venir, tourner. L'intrigue s'est alors renouée, et je l'ai laissée se renouer, car ces deux femmes, Florine la jalouse et l'heureuse Coralie, m'ont entortillée de nouveau dans les plis de leur basquine, de leur mantille, et m'ont fourré leurs petits pieds dans l'œil. J'ai pu gagner le troisième acte sans avoir fait de malheur, sans avoir nécessité l'intervention du commissaire de police, ni scandalisé la salle. Et je crois dès lors à la puissance de la morale publique et religieuse dont on s'occupe à la Chambre des députés. J'ai pu comprendre qu'il s'agit d'un homme qui aime deux femmes sans en être aimé, ou qui en est aimé sans les aimer, qui n'aime pas les alcades ou que les alcades n'aiment pas, mais qui, à coup sûr, est un brave seigneur qui aime quelqu'un, lui-même ou Dieu, comme Pialet, car il se fait moine. Si vous voulez en savoir davantage, allez au Panorama dramatique. Voilà suffisamment prévenu qu'il faut y aller une première fois pour se faire à ces triomphants bas rouges à coin vert, à ce petit pied plein de promesses, à ces yeux qui filtrent le soleil, à ces finesses de femmes parisiennes déguisées en andalouses et d'andalouses déguisées en parisiennes. Puis, une seconde fois, pour jouir de la pièce qui fait mourir de rire sous forme de vieillard, pleurer sous forme de seigneur amoureux. La pièce a réussi sous les deux espèces. L'auteur, qui dit-on a pour collaborateur un de nos grands poètes, a visé le succès avec une fille amoureuse dans chaque main. Aussi a-t-il failli tuer le plaisir son parterre en émoi. Les jambes de ces deux filles semblaient avoir plus d'esprit que l'auteur. Néanmoins, quand les deux rivales s'en allaient, on trouvait le dialogue spirituel, ce qui prouve assez victorieusement l'excellence de la pièce. L'auteur a été nommé au milieu d'applaudissements qui ont donné des inquiétudes à l'architecte de la salle. Mais l'auteur, habitué à ces mouvements du Vésuve aviné qui bousse le lustre, ne tremblait pas. C'est Monsieur Dubruel. Quant aux actrices, elles ont dansé le fameux boléro de Séville qui a trouvé grâce devant les pères du concile autrefois, et que la censure a permis, malgré la lasciveté des poses. Ce boléro suffit à attirer tous les vieillards qui ne savent que faire de leur reste d'amour, et j'ai la charité de les avertir de tenir le verre de leur lorgnette très limpide. Pendant que Lucien écrivait cet article, qui fit révolution dans le journalisme par la révélation d'une manière neuve et originale, Lousteau écrivait un article dit demeure, intitulé L'ex-beau, et qui commençait ainsi. Le beau de l'Empire est toujours un homme long et mince, bien conservé, qui porte un corset et qui a la croix de la Légion d'honneur. Il s'appelle quelque chose comme Potelet, et pour se mettre bien en cours aujourd'hui, le baron de l'Empire s'est gratifié d'un dû. Il est du Potelet, quitte à redevenir Potelet en cas de révolution. Homme à deux fins d'ailleurs, comme son nom. Il fait la cour au faubourg Saint-Germain après avoir été le glorieux, l'utile et l'agréable porte-queue d'une sœur de cet homme que la pudeur m'empêche de nommer. Si du Potelet renie son service auprès de l'Altesse impériale, il chante encore les romances de sa bienfaitrice intime. L'article était un tissu de personnalité comme on les faisait à cette époque. Il s'y trouvait, entre Madame de Bargeton, à qui le baron Châtelet faisait la cour, et un os de sèche, un parallèle bouffon, qui plaisait sans qu'on eût besoin de connaître les deux personnes desquelles on se moquait. Châtelet était comparé à Héron. Les amours de ce Héron, ne pouvant avaler la sèche qui se cassait en trois quand il la laissait tomber, provoquaient irrésistiblement le rire. Cette plaisanterie, qui se divisait en plusieurs articles, eut, comme on sait, un retentissement énorme dans le faubourg Saint-Germain, et fut une des mille et une causes des rigueurs apportées à la législation de la presse. Une heure après, Blondet, Lousteau, Lucien, renvinrent au salon où causaient les convives, le duc, le ministre et les quatre femmes, les trois négociants, le directeur du théâtre, Finot et les trois auteurs. Un apprenti coiffé de son bonnet de papier était déjà venu chercher la copie pour le journal. « Les ouvriers vont quitter si je ne leur apporte rien, » dit-il. « Tiens, voilà 10 francs et qu'ils attendent, » répondit Finot. « Si je les leur donne, monsieur, ils feront de la soulographie et adieu le journal. » « Le bon sens de cet enfant m'épouvante, » dit Finot. Ce fut au moment où le ministre prédisait un brillant avenir à ce gamin que les trois auteurs entrèrent. Blondet lut un article excessivement spirituel contre les romantiques, l'article de Lousteau fit rire, le duc de Rhétoré recommanda, pour ne pas trop indisposer le faubourg Saint-Germain, d'y glisser un éloge indirect pour Madame d'Espard. « Et vous, lisez-nous ce que vous avez fait, » dit Finot à Lucien. Quand Lucien, qui tremblait de peur, eut fini, le salon retentissait d'applaudissements. Les actrices embrassaient le néophyte, les trois négociants le serraient à l'étouffer, Dubruel lui prenait la main et avait une larme à l'œil, enfin, le directeur l'invitait à dîner. « Il n'y a plus d'enfants, » dit Blondet. « Comme monsieur de Chateaubriand a déjà fait le mot d'enfant sublime pour Victor Hugo, je suis obligé de vous dire tout simplement que vous êtes un homme d'esprit, de cœur et de style. »« Monsieur est du journal, » dit Finot en remerciant Étienne et lui jetant le fin regard de l'exploitateur. « Quel mot avez-vous fait ?» dit Lousteau à Blondet et Dubruel. « Voilà ceux de Dubruel, » dit Nathan. « En voyant combien monsieur le vicomte d'a. »« Occupe le public, monsieur le vicomte Démosthène a dit hier. »« Ils vont peut-être me laisser tranquille. » Une dame dit à un ultra qui blâmait le discours de monsieur Pasquier comme continuant le système de deux cases. « Oui, mais il a des mollets bien monarchiques. »« Si ça commence ainsi, je ne vous en demande pas davantage. Tout va bien, » dit Finot. « Qu'on leur portait cela, » dit-il à l'apprenti. « Le journal est un peu plaqué, mais c'est notre meilleur numéro, » dit-il en se tournant vers le groupe des écrivains, qui déjà regardait Lucien avec une sorte de sournoiserie. « Il a de l'esprit, ce gars-là, » dit Blondet. « Son article est bien, » dit Claude Vignon. À table! Cria Matifat. Le duc donna le bras à Florine, Coralie prit celui de Lucien, et la danseuse eut d'un côté Blondet, de l'autre le ministre allemand. Je ne comprends pas pourquoi vous attaquez Madame de Bargeton et le baron Châtelet, qui est, dit-on, nommé préfet de la Charente et maître des requêtes. Madame de Bargeton a mis Lucien à la porte comme un drôle, dit Lousteau. Un si beau jeune homme, fit le ministre. Le souper, servi dans une argenterie neuve, dans une porcelaine de Sèvres, sur du linge damassé, respirait une magnificence cossue. Chevet avait fait le souper, les vins avaient été choisis par le plus fameux négociant du quai Saint-Bernard, ami de Camusot, de Matifat et de Cardot. Lucien, qui vit pour la première fois le luxe parisien fonctionnant, marchait ainsi de surprise en surprise, et cachait son étonnement en homme d'esprit, de cœur et de style qu'il était, selon le mot de Blondet. En traversant le salon, Coralie avait dit à l'oreille de Florine « Fais-moi si bien griser Camusot qu'il soit obligé de rester endormi chez toi. »« Tu as donc fait ton journaliste ?» répondit Florine. « Non, ma chère, je l'aime !» répliqua Coralie en faisant un admirable petit mouvement d'épaule. Ces paroles avaient retenti dans l'oreille de Lucien, apportées par le cinquième péché capital. Coralie était admirablement bien habillée, et sa toilette mettait savamment en relief ses beautés spéciales, car toute femme a des perfections qui lui sont propres. Sa robe, comme celle de Florine, avait le mérite d'être d'une délicieuse étoffe inédite nommée mousseline de soie, dont la primeur appartenait pour quelques jours à Camusot, l'une des providences parisiennes des fabriques de Lyon, en sa qualité de chef du Cocon d'Or. Ainsi, l'amour et la toilette, ce phare et ce parfum de la femme, rehaussaient les séductions de l'heureuse Coralie. Un plaisir attendu, et qui ne nous échappera pas, exerce des séductions immenses sur les jeunes gens. Peut-être la certitude est-elle à leurs yeux tout l'attrait des mauvais lieux ? Peut-être est-elle le secret des longues fidélités ? L'amour pur, sincère, le premier amour enfin, joint à l'une de ces rages fantasques qui piquent ces pauvres créatures, et aussi l'admiration causée par la grande beauté de Lucien, donnèrent l'esprit du cœur à Coralie. « Je t'aimerai laid et malade !» dit-elle à l'oreille de Lucien en se mettant à table.